Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, l'art face à 1917. Une série documentaire de Perrine Kervran, réalisée par Ghislaine David. Au départ de cette série, il y a un centenaire, ou plutôt plusieurs. Celui du Chemin des Dames, du Ballet Parade, de la Révolution russe, de l'Urinoir, de Duchamp, de la Constitution mexicaine, de l'ouverture de la Galerie Dada, des joueurs de cartes de Léger, des mamelles de Tirésias et des folies de Jacques Vacher et André Breton. Il y a aussi cette idée que le monde comme il va, ou comme il ne va pas, touche les artistes et se retrouve en creux ou en relief dans les poèmes des uns, sur les toiles des autres ou sur scène. Et puis le fait qu'il y a des pacifistes très remontés, des artistes narquois et furieux qui savent où se planquer en Suisse pour inventer ensemble la grande colère de l'histoire de l'art. Et enfin, le fait que, coïncidence, au même moment, résonne le ricanement de Duchamp. Alors pour commencer, les personnages. Un graphiste, artiste, guide dadaïste, une historienne de l'art précise, un historien qui cherche, un conservateur admiratif, Zara, Ball, Hennings, et une historienne qui tire des fils. Ensuite le décor. Les fontaines de Zurich, des ruelles médiévales, un studio de radio, les couloirs de l'INHA, la limate, les montagnes au loin, de la musique, des poèmes et l'envie de provoquer. Aujourd'hui, troisième épisode, on cherche le cabaret Voltaire.
Et art, à ce moment-là, vous étiez poète, surtout vous écriviez des textes.
J'écrivais des poèmes, n'est-ce pas, mais je peignais.
Jean Harp.
Mais pourquoi étiez-vous à Zurich?
Et Sophie Teuber Harp.
Vous êtes alsacien, vous étiez
en Suisse. Eh bien, voici l'histoire, vous touchez tout de suite. Il y avait les Allemands qui voulaient que je meure pour l'Allemagne, il y avait les Français qui voulaient que je meure pour la France. Il y avait... Alors je disais, une solution serait peut-être de ne pas mourir et de rester en Suisse un peu plus longtemps.
Vous étiez au cabaret Voltaire.
Il y avait une petite...
C'était à la Spiegelgasse.
C'était une brasserie,
n'est-ce pas? Il y avait derrière une salle avec une scène, n'est-ce pas? On pouvait, il y avait toujours des problèmes, qu'il y avait des Tyroliens qui chantaient ou des choses. Alors, à la place de ça, ils ont créé un cabaret littéraire, ce qui était quand même une nouveauté.
Quoi. Sarah est aussi venue. C'était lui, un des premiers, qui a donné, qui avait la force de dire il faut créer quelque chose, il faut faire quelque chose, un espèce de. Le soir.
Alors, on est dans la Spielgasse à Zurich. On est au numéro 14. Et là, on vient de croiser une plaque qui est fixée sur un immeuble de 5 étages. Et sur cette plaque, il y a écrit qu'ici a habité Lénine entre février 1916 et avril 1917, avant donc de rejoindre la Révolution russe. Donc là, on est au 14. Et je crois que c'est au numéro 1. Peut-être que Lénine a croisé Tristan Tzara et Hugo Ball à Zurich. Dada, Duchamp, Breton, 1917 ou le grand dégoût de l'art. Donc ça y est, on a trouvé le cabaret Voltaire. Ah, c'est fermé. Alors, est-ce qu'il y a une sonnette? Non, bon, on va faire le tour, peut-être qu'on peut rentrer par en bas.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien profiter de l'occasion unique de se laisser baptiser Dada?
Oui, moi.
Donc vous avez déjà lu, ça suffit. Ça va mouiller un peu la tête, mais c'est pas grave. Un, deux, ouais, ou trois. On y va?
Alors, je vais le faire après. Le premier sentence, et tu vas mettre ta tête dans l'eau. Tu dis Dada.
Ouais.
On va faire la deuxième phrase.
Mais pas trop vite.
Quoi. Dada. Et la troisième phrase. Et Dada. Wie lang man die ewige Seligkeit?
Dada.
Wie wird man berühmt?
Dada.
Mit edlem Gestus und feinem Anstand bis zum Irrsinn, bis zur Bewusstlosigkeit.
Dada.
Comment atteindre le salut éternel?
Dada!
Comment devenir célèbre?
Dada!
avec une noble gestuelle et de belles manières, jusqu'à la folie et jusqu'à perdre conscience.
Dada !
Zurich, j'arrive et Harp.
Tristan Tzara.
Moi, quelques autres. Nous découvrons ce cabaret qui annonce une exposition de peinture moderne. L'amitié avec Ball a été instantanée. Un homme extrêmement curieux qui a fui l'Allemagne à pied en traversant les Alpes dans des sandales ensemble avec sa femme Amy Hennings, qui s'arrêtait de village en village et accompagné de sa guitare chantait des chansons contre la guerre, contre ces affreuses batailles. On n'a pas idée, aujourd'hui ni pendant la dernière guerre, ce que ça a pu être, cette souffrance constante de gens qui meurent, qui meurent, qui meurent, de quantité. Mais nous étions jeunes. Nous pensions que tout devait être changé. La volonté de briser les cadres de la société était très grande.
Tzara, Janco, Ball, Hennings, Welsenbeck, Duchamp, Picabia, Rocher, Cravant, Vacher, Breton, Soupeau, Aragon. Ils sont revenus du nationalisme, écœurés par l'époque et ils veulent tout changer. Ils sont jeunes et enragés, ils sont poètes, auteurs, dramaturges, peintres, sculpteurs, mais ils sont aussi parfois soldats. Ils sont enfin sortis des tranchées, démobilisés, blessés, convalescents ou traumatisés. Ils sont aussi parfois réformés, déserteurs, planqués, pacifistes ou embusqués. Ils manient la provocation et souvent sont secoués d'un rire féroce qui voudrait tout détruire. Mais qu'ils tâtonnent ou qu'ils hésitent, qu'ils débutent ou qu'ils creusent un sillon, ce qui est beau, c'est que chacun de leur côté et sans se concerter, ils prennent la tangente et flanquent tout par terre dans un fracas qui résonne encore aujourd'hui. Alors quoi de mieux que Paris, New York et ses buildings, ou la Suisse, ses lacs et ses vastes paysages? Bref, quoi de mieux qu'un ailleurs pour semer la pagaille et faire de ces années de guerre quelque chose qui ne soit pas une boucherie patriotique.
En 1915, Hugo Ball arrive à Zurich avec sa compagne Amy Hennings, qui est chanteuse. Ils sont tous deux allemands.
Isabelle Levy.
Hugo Ball est un écrivain et un metteur en scène. Et en fait, il se réunit dès cette époque-là avec d'autres artistes qui ont fui la guerre. Il y a notamment le poète Tristan Tzara, qui est roumain. Il y a les Hollandais Otto et Adia Van Ries. Jean Harpe, qui est alsacien. Sophie Teuber, qui est suisse, mais qui rejoint ce petit cercle et qui, elle, est danseuse, qui enseigne aussi à l'école des arts appliqués à cette époque-là. On trouve également un peintre roumain qui est Marcel Janco, qui est très important pour Dada. Et puis Richard Hülsenbeck, qui est allemand et qui a rejoint également Zurich à ce moment-là. On peut aussi rajouter Hans Richter, qui est un peintre allemand. Il y a évidemment aussi d'autres personnalités, des intellectuels, des politiciens. Lénine est à Zurich à cette époque-là. Il y a Bakounine aussi qui est là. C'est bien sûr la neutralité qui explique que tout le monde se rue en Suisse. Et puis peut-être aussi le fait que la Suisse est un pays où règne le multilinguisme. On pratique le français, l'allemand, l'italien. Et je pense que c'est un terrain favorable pour la réunion d'intellectuels, d'artistes qui croient justement encore en l'Europe à cette époque-là.
Hugo Ball dit que c'était...
Adrian Notz.
Un Vogelkäfig umgeben von brüllenden Löwen. C'était comme une petite cage d'oiseaux avec des lions. Birdcage surrounded by roaring lions.
Les gens étaient autour de la cage aux oiseaux.
Oui. Et je dis toujours, c'était un peu comme un spa. Non? Aussi aujourd'hui, je crois que Zurich, c'est le spa du monde. Non? On peut se retirer. Tout est nettoyé, propre. C'est dans le contraste, non, qu'on peut faire des choses pas si propres. Comme Zurich, quelque chose comme Dada, c'est le contraire de ça. Non.
Je pense que c'est vraiment la guerre qui a favorisé cette réunion de personnalités venant de tous ces pays-là. Néanmoins, il y a un lieu tout près de Zurich, justement, qui est important depuis un moment déjà, qui est Monte Verita, le mont de la vérité, dans le Tessin, près du lac Majeur. Et En fait, se retrouvent là-bas des intellectuels, des écrivains, des anarchistes. C'est là où est actif notamment le chorégraphe Rudolf von Laban, qui va rejoindre aussi Dada à Zurich, ou encore la danseuse Marie Wigman, qui critique en fait la société industrielle et donc qui prône un retour à la nature sous la forme d'un retour au naturisme, au végétarisme. Ce retour justement à la vie collective qui sera important et qui sera un peu un modèle aussi pour Dada.
On peut aller au vrai cabaret Voltaire.
On longe le bar. Et on arrive dans une grande salle avec des piliers au milieu, des tables en bois un peu partout, des chaises, un sol qui est à la fois en béton et en parquet, une petite scène. Et puis donc au mur, des photos, dont une photo de Fontaine, l'urinoir de Duchamp. Et puis d'autres photos. C'est le lieu, le vrai cabaret Voltaire, où ont eu lieu les premières soirées Dada à Zurich en 1916.
Les dadaïstes, ils ont loué cette salle pour 4 mois. C'était chaque soir. Il y a une petite note de Hugo Ball. Et il parle qu'il y avait, c'était 6 heures le soir, on a mis des placards futuristes au mur.
Des affiches au mur.
Des affiches, et il y avait une députation de 4 petits chants qui se orientalisch aussehen, they looked oriental looking little men, des petits
des petites personnes avec des habits orientaux.
Oui. Et ils ont eu des portefeuilles et des peintures. Et c'était Marcel Janko, le peintre, Tristan Tzara, Georges Janko et encore 4 hommes de quels Hugo Ball n'a pas pris le nom. Peut-être c'était Julien, que l'autre frère de Marcel. Et Jean Harpe, il était aussi ici. Il a mis des autres peintures, aussi des impressions de Picasso et des autres artistes. Et le soir, Sarah a lu des poèmes vieux, il dit. Verse älteren Stiles. Et peut-être c'était des poèmes qui Tristan Tzara a écrit à Bucarest. Il est venu de Rouen et il a écrit les primer les poèmes, et peut-être il a parlé français comme moi, mais avec un accent roumain, non? Et il a traduit tous les poèmes. Et je crois qu'on peut l'imaginer un peu comme une bar. Il y avait des artistes ici, et de petites scènes auxquelles Tzara a dit quelque chose, Hugo Ball a dit quelque chose, et c'était, oui, le premier, c'était un samedi, non?
C'était un samedi de 1916.
Oui.
C'était à quel moment de l'année?
C'était dans le février, non? C'est l'hiver. Le commencement de Cabaret Voltaire, c'était très, on peut dire, ordinaire. On a lu des textes, on a lu Jarry, Apollinaire, et des artistes et écrivains allemands. On a chant et on a...
Joue du piano?
Joue du piano, oui. Et je crois qu'on... On peut dire peut-être maintenant, en mars ou en avril, on a commencé avec les masques, par exemple. Et les masques, ça a changé beaucoup. Et un peu plus tard, en juin, Hugo Ball a récit ses premiers poèmes bruitistes, non? Sound poems. Et je crois que dans ce moment, c'est aussi en avril qu'on a trouvé le mot Dada. On peut dire que c'était le... conception immaculée. Et peut-être avec le nom, beaucoup a changé. Et on a réalisé que l'audience ici, le public, il ne demande plus. Non? Et comme ça, les artistes, Hugo Ball, Tristan Tzara, Sophie Teubach, et tous les autres, ils ont commencé à interagir avec le public. On a eu la nécessité d'être plus imaginatif et plus provocatif, plus révolutionnaire.
Peut-être que quelqu'un doit lire un poème.
Il y a Lucas qui pourrait lire un poème.
Dans l'Église catholique. Ombola, tacebiti, solum cola.
Silence.
Toten clage, ombula, takebiti, soluncula, taba, kota, tokta, taba, takabla, takatak, babulam, balam, tak trui, wo, biba, bibel, oh, kla, oh, au, kla.
Nous sommes par conséquent au mois de janvier au février 1916. Bal nous a invités à lire des poèmes dans son cabaret. Le cabaret était devenu un cabaret artistique. Nous lisions de nos propres poèmes et des poèmes simultanés. Cette poésie simultanée consistait de temps en temps à dire tous les trois des choses à l'unisson et de temps en temps à s'embrouiller complètement, chacun récitant quelque chose d'autre, un autre texte. Tout cela a été écrit et a même paru dans la publication qui a été intitulée Le Cabaret Voltaire.
Notamment un poème qui s'intitule « L'amiral cherche une maison à louer » qui est déclamé par Hülsenbeck, Sarah et Janko. Et ce poème mêle des textes en français, en allemand, en anglais, qui sont les langues principales des belligérants. Alors si on lit le poème qui est publié dans la revue Dada, on peut comprendre plus ou moins de quoi il s'agit, mais une fois qu'il est récité de manière simultanée par trois personnes en même temps, c'est juste un chaos complet. Et cette cacophonie de sonorités qui sont les sonorités des trois puissances en guerre devient une sorte de cacophonie totalement inintelligible qui renvoie finalement à la situation politique de l'époque encore une fois.
L'amiral cherche une maison à louer.
C'est un moment absolument fabuleux qui nous parle aujourd'hui encore parce que effectivement il y a une interrogation du langage, d'un langage qui ne doit pas être un simple outil de communication, mais qui est un outil critique. Et s'il y a une telle interrogation du langage par les dadaïstes, c'est parce qu'ils estiment que la propagande politique, mais aussi le journalisme, a véritablement tué le langage. Le langage a été manipulé par ces forces au pouvoir. Et il convient finalement de refonder le langage, de lui redonner sa pureté, sa force première, voire sa dimension magique et spirituelle. Hugo Ball est très marqué par la pensée mystique. Ça renvoie aussi à une époque qui est autre, qui est bien plus ancienne. Et là, on a peut-être toujours cette idée d'un retour aux origines, puisque outre ces poèmes phonétiques, Hugo Ball n'est pas le seul, hein, il y a également des poèmes et des chants inspirés d'Afrique que déclame Tristan Tzara. C'est l'idée d'un langage d'avant la parole, d'avant la séparation des peuples. Évidemment, c'est très symbolique en ces temps de guerre.
Oui, parce que d'une certaine façon, on ne peut pas comprendre, imaginer Dada hors de son contexte. C'est-à-dire qu'on est en 16, en 17, à Zurich, dans un pays neutre, où sont des réfugiés, des déserteurs, des pacifistes.
Dada, c'est quand même février 1916. C'est Verdun, c'est le début de Verdun. Hein. Donc voilà, ils sont évidemment marqués par ça. Si la guerre explique Dada, Dada explique aussi la guerre, hein, et pointe finalement les failles de la civilisation à cette époque-là.
L'époque évoquée durant cette deuxième émission se situe entre 1914 et 1919. Premier élément important de cette période, votre état d'esprit à l'aube de la guerre. Pouvez-vous nous confier quelques souvenirs ?
Pour se faire une idée de l'humeur de certains jeunes gens dont j'étais,
André Breton,
que la guerre de 1914 venait d'arracher à toutes leurs aspirations pour les précipiter dans un cloaque de sang, de sottises et de boue. Comment dans ces conditions n'aurais-je pas été tenté de demander secours aux poètes ? Que pensait-il de l'effroyable aventure ? Pour moi, il y avait alors un homme dont le génie poétique m'éclipsait tous les autres, faisait à tout instant point de mire. C'était Guillaume Apollinaire.
À Paris, Apollinaire, démobilisé et blessé, arbore fièrement son bandage blanc comme un étrange turban et reçoit en uniforme, chez lui ou à la terrasse du Flore. Il voit défiler la crème de l'avant-garde confirmée, mais aussi la jeune garde impatiente qui veut profiter de son entre-gens. Elle a besoin de l'influent critique d'art et du grand poète que s'arrachent les revues pour lui mettre le pied à l'étrier. Elle veut monter sur ses épaules, quitte à lui marcher sur la tête pour respirer l'air des hauteurs. Sarah lui écrit de Zurich pour obtenir une collaboration et sa bénédiction. Et Breton aussi a des projets.
Breton entend et est mobilisé de juillet 1915 à juillet 1916 à Nantes. Il va vivre presque, on peut dire, l'espace d'une année à Nantes.
Georges Sebag.
Là, vers février-mars 1916, Jacques Vacher, qui est blessé, enfin qui a été blessé en septembre 1915 en Champagne, à Ménil-les-Hurlus, qui a été blessé au genou et au mollet, est soigné à l'hôpital de la rue du Bocage. Et c'est là que Breton rencontre Vacher. Et cette rencontre est vraiment capitale. Vacher, en tant que mobilisé, c'est, pour ainsi dire, le correspondant de guerre de Breton. Breton, toute sa vie, va considérer que Vacher est d'une part l'être qu'il a aimé le plus au monde, et d'autre part, sans doute, celui qu'il a le plus bouleversé. Donc Vacher, son destin, c'est qu'il meurt le 6 janvier 1919 à Nantes d'une overdose d'opium. Et Breton, en 1919, publie les 15 lettres, les lettres de guerre de Vacher. Et voilà, on peut dire, le testament de Vacher. Et Breton et Vacher ont eu ensemble une pratique qui est celle d'une cinéphilie tout à fait originale. Ils entrent dans une salle et, au bout d'un certain moment, ils en sortent et vont aussitôt se brancher sur une nouvelle. Et c'est ainsi qu'ils font le tour des cinémas de Nantes. Quand ils se rencontreront à Paris, ils emportent avec eux, je dirais, de quoi saucissonner et boire. Ils ont une bouteille, ils trinquent ensemble et ils parlent à haute voix dans le cinéma sans tenir compte des spectateurs qui les entourent. Ils ont vraiment une pratique provocatrice. C'est ainsi qu'on voit se dessiner l'orientation très ouverte de ce qui n'est pas de l'ordre vraiment de l'esthétique, mais qui va dans tous les sens. Hein. Le cinéma, les journaux, la publicité, la vie quotidienne, la peinture, les arts primitifs, le monde nouveau, la guerre. Donc la guerre, là, elle fait partie du jeu. Ils n'ont pas du tout une approche théorique, politique, idéologique, mais une approche directe, immédiate. Ils prennent la guerre telle qu'elle est, avec ses horreurs, et d'une certaine façon, ils essaient à la fois d'y participer et de s'en échapper par d'autres moyens. Vacher, c'est celui qui démolit les personnes que Breton admire, à savoir aussi bien Apollinaire, voire même Rimbaud. Donc si le critère principal pour lui est celui de l'humour, le fait que Breton se soit trouvé devant ce personnage, là, eh bien je dirais presque façonné à son tour.
En novembre 1916, un soir de réception,
Pierre-André Biraud,
laissant les amis discuter cubisme, orphisme et surtout cubisme littéraire, j'emmenais Guillaume Apollinaire dans mon coin de travail et là, bien seul, assis tout près l'un de l'autre, je lui ai dit en substance « Faisons, au sens propre, de la poésie dramatique. Avez-vous quelque chose à me donner ?»« Oui, j'ai un drame commencé avant la guerre. Les mamelles de Tiresias. Une femme clownesque qui, ouvrant en scène son corsage, laisserait échapper ses énormes mamelles. Gros ballon gonflé au gaz s'envolant dans la salle.
Les mamelles de Tiresias de Guillaume Apollinaire, acte 1, scène 1.
Non, monsieur mon mari, vous ne me ferez pas faire ce que vous voulez. Je suis féministe et je ne reconnais pas l'autorité de l'homme. Du reste, je veux agir à ma guise. Il y a assez longtemps que les hommes font ce qui leur plaît. Après tout, je veux aussi aller me battre contre les ennemis. J'ai envie d'être soldat. Une, deux, je veux faire la guerre. Et non pas faire des enfants. Non, monsieur mon mari, vous ne me commanderez plus. Ce n'est pas parce que vous m'avez fait la cour dans le Connecticut que je dois vous faire la cuisine à Zanzibar.
Et la mise en scène, quel fouillis! Tout se jouait vraiment pour la première fois. Enfin, au moment de donner le texte du programme à l'imprimeur, j'ai dit à Guillaume Apollinaire, mais que mettons-nous dessous? Apollinaire réfléchit et il me dit, eh bien, mettons surréaliste. Il fut joué épatamment. Dame, il faut bien croire qu'on fut agréablement et profondément épaté. Puisque ce drame ne fut joué qu'une seule fois, voici bientôt 30 ans, et qu'on en parle encore.
C'est une représentation avec des décors un peu cubistes. Les gens attendent, la salle est pleine, tous les jeunes poètes de la capitale sont là. Il y a quelque chose de moderne, de nouveau, de ce que, peu de temps après, Apollinaire appelle l'esprit nouveau. Il est certain que Vacher est présent et très vraisemblablement, Vacher, à un moment donné, s'agite. Il est probable aussi, comme Breton l'a rapporté, qu'il a brandi son Browning, comme s'il allait tirer je ne sais contre qui. Et le fait que Vacher, d'une certaine façon, est supposé avoir montré sa désapprobation ce jour-là, cela va entraîner la désaffection de Breton, d'Aragon, de Soupeau à moindre mesure. Donc on est dans une phase où, en 1917, on voit en effet peu à peu s'affirmer les individus Breton. Aragon est plus jeune, il a un an de moins. Enfin, il est né, en 1917, il a 20 ans. Vacher, en 1917, il a 22 ans. Ces personnes ont envie de proposer quelque chose qui leur appartient en propre. Mais cela n'est encore pas visible. Il faut attendre peut-être l'année suivante, en 1918, les choses vont devenir beaucoup plus claires.
On voit les montagnes au loin, là, dans une jolie brume de printemps. Il y a des bateaux qui sont bâchés. Donc là, autour de nous, il y a tous ces immeubles qui longent le quai, qui sont assez étroits, assez hauts. Et puis des bâtiments plus officiels, hein, aussi, qui donnent sur le fleuve.
Oui, ça c'est le Zunftesturmeisen, c'est là Tessenzara il a lu son premier manifeste. Et à gauche, il y a le Stadthaus, la maison de cité.
La mairie,
oui.
Extrait du manifeste Dada de 1918.
Puis je crie. Idéal, connaissance, boum boum, boum boum, boum boum. J'ai enregistré assez exactement le progrès, la loi, la morale et toutes les autres belles qualités que différentes gens très intelligents ont discuté dans tant de livres pour arriver à la fin à dire que tout de même chacun a dansé d'après son boum boum personnel et qu'il a raison pour son boum boum, satisfaction de la curiosité maladive, sonnerie privée pour besoin inexplicable, bain. Difficulté pécuniaire, estomac avec répercussions sur la vie, autorité de la baguette mystique formulée en bouquet d'orchestre fantôme, aux archers muets, graissés de filtres à base d'ammoniac animal.
Vive Dada!
Alors, à mesure que les trajectoires se figent avec la guerre, les revues, elles, circulent encore. Par courrier, dans la poche de l'un, feuilletées chez un ami, commentées dans les soirées ou prêtées quand on a de la chance. Elles sont les fils infimes qui relient les avant-gardes entre elles et maintiennent les liens tissés avant-guerre. Il y a Cycle, la revue littéraire et poétique de Pierre-André Biraud, ouverte aux porteurs de nouveaux. Nord-Sud, la revue de Pierre Roverdi, qui, comme la nouvelle ligne de métro, veut rassembler Montmartre et Montparnasse, le cabaret Voltaire, puis Dada, qui arrive de Zurich et sur laquelle Breton et Soupeau tombent chez Apollinaire, 291, qui vient de New York, tout droit sorti de la galerie Stieglitz, et 391, comme un clin d'œil à la précédente, qui naît à Barcelone et grandit à New York, Picabia aux manettes. Et il y a aussi The Blind Man, piloté à New York par Henri-Pierre Rocher et bientôt Marcel Duchamp.
Ah, Marcel Duchamp, c'est un personnage fascinant. Quand il part aux États-Unis, à New York plus exactement, avant de partir, il écrit lui-même
Béatrice Joyeux-Prunel.
Marius Desarias, qui l'invite, un marchand critique mexicain, il lui écrit « Je ne vais pas à New York, je pars de Paris ». Donc ça, je crois que ça résume très très bien son état d'esprit. Duchamp, il est écœuré par Paris, où il n'a pas trouvé sa place, où il a toujours été un peu à la traîne des autres, où on n'a pas reconnu son investissement, son engagement intellectuel et artistique. Il n'a pas sa place non plus comme homme, jeune homme pendant la guerre. Duchamp, c'est quelqu'un qui avait ce qu'on appelait un souffle au cœur. Il a été donc réformé. Quand vous êtes jeune dans la rue à vous balader, vous vous prenez des cailloux dans la tête. Parce qu'on estime que vous êtes un vendu ou un déserteur. Ce qui peut expliquer que Duchamp soit parti de Paris et finisse par atterrir à New York de manière dépitée et qui va paradoxalement susciter une vraie révolution artistique pendant et déjà avant la guerre.
Marcel Duchamp, puis-je vous demander... Vos ready-made datent-ils d'après-guerre ou d'avant-guerre ?
C'est-à-dire que j'en avais fait un en 13, par conséquent c'était avant la guerre. Je ne l'appelais pas ready-made à ce moment-là parce que je ne savais pas que c'était un ready-made. J'avais fait simplement une roue qui tourne, une roue de bicyclette qui tourne sur un tabouret pour le plaisir de l'avoir tournée. Ensuite j'ai fait le bottle rack, le...
séchoir à bouteille.
Séchoir à bouteille. Qui lui n'était pas, qui ne bougeait pas. Donc il y avait du mouvement et du pas mouvement. Cependant, il y a eu une relation entre les deux choses. Ensuite, à New York, alors en 15, j'avais fait une pelle à neige. Et alors l'intéressant dans tout ça, c'était pas tellement la réaction en soi, mais il y avait aussi l'idée de trouver quelque chose dans ces objets qui ne soit pas attrayant au point de vue esthétique. La délectation esthétique était exclue.
Michel Gauthier, on est devant l'œuvre de Marcel Duchamp, donc Fontaine. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette œuvre que beaucoup de gens connaissent, mais il faut quand même peut-être toujours commencer par la décrire.
C'est tout simplement un urinoir blanc en porcelaine blanche, qui a la forme assez traditionnelle des urinoirs qui, depuis la fin du 19e siècle, étaient mis en vente. Simplement, cet urinoir, comme vous le voyez, il n'est pas placé dans le sens que son usage appellerait, mais mis sur son fond, sur son socle. Dès 1917, la comparaison avec un Bouddha, avec une Madone a été faite. Mais là, l'œuvre que nous avons sous les yeux, ça n'est pas l'œuvre qui a été exposé en 1917, parce que l'œuvre qui a été exposée en 1917, à vrai dire, on ne sait pas exactement ce qu'elle est devenue, elle n'a pas donc été exposée. Elle a été planquée plus ou moins derrière une simèse pendant la durée de l'exposition. Duchamp et Manet sont venus la rechercher quelques jours après, l'ont emmenée dans la galerie 291, qui était la galerie de Stieglitz, le grand photographe de l'époque. La pièce a été, dans cette galerie, posée sur un socle et photographiée. Est-ce que c'est Arensberg, le collectionneur, qui se l'est vu donner ? Elle a été cassée, brisée ou pas, en tout cas Duchamp
fixée,
fixée peut-être, utilisée. Et toutes les fontaines que nous voyons, que ce soit dans un centre de grands musées ou ailleurs, ne sont en tout cas pas... elles ont des origines diverses, c'est intéressant d'ailleurs, mais elles ne sont pas cet objet original perdu. C'est d'ailleurs pas la moindre. Je pense que Duchamp, s'il avait été interrogé sur cette question, aurait aimé que l'œuvre la plus... sans doute la plus importante du XXe siècle. Personne ne l'avait jamais vu au fond, on n'en avait vu que des répliques. Ça n'a pas le moindre des attraits de cette pièce et de sa complexe histoire.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu dans quel contexte a été imaginée, créée cette œuvre ?
À l'origine, il faut savoir que c'est lié à l'histoire de la peinture, à l'histoire de l'industrialisation des couleurs. Parce que Duchamp avait constaté que quand vous vous trouvez progressivement, les couleurs, les peintures se sont industrialisées dans la seconde moitié du 19e et encore plus au début du 20e siècle. Et quand vous regardez un Seurat, par exemple, puisque Seurat, en raison de sa technique, le pointillisme, il ne mélange jamais les couleurs sur la toile. Il ne les mélange pas sur sa palette, mais il ne les mélange pas non plus sur la toile. Or, comme il travaille avec des couleurs industrielles, d'une certaine façon, ce que nous avons sur la toile de Seurat, c'est une série d'objets ready-made, de peintures de couleurs industrielles. Et au fond du champ, avec le ready-made, aura fait un pas de plus entre la peinture industrielle simplement posée sur la toile et puis l'achat d'un porte-bouteille ou d'un urinoir. Il y a certes un geste énorme parce qu'il est très visible comme ready-made, mais au fond c'est la même logique. Et ensuite, bien sûr, il va argumenter autour de tout ça, notamment sur l'idée de produire un objet qui rend très 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 difficile de donner une définition de l'œuvre d'art. Mais il faut bien dire aussi, ça c'est quelque chose qu'on constate quand on regarde l'histoire de tout ça, c'est que d'une certaine façon, après l'épisode de 1917, le ready-made sort complètement de l'histoire de l'art.
Et alors justement, comment est-ce que Duchamp en vient à acheter cet urinoir, à le baptiser fontaine et à le poser sur un socle?
Alors ça, c'est justement, parmi les attentes des avant-gardes new-yorkaises, il y avait l'idée de faire comme à Paris, donc de créer des structures qui permettraient aux artistes novateurs de s'exprimer, d'exposer, d'avoir en fait une assise sociale, mais aussi économique, qui les renforce, qui donc consolide la modernité. En particulier, il y avait un réseau qui voulait créer un salon des indépendants. Duchamp est requis par les organisateurs de ce salon pour faire partie du comité du salon. Et donc Duchamp se rend compte assez vite qu'en fait, il est en train d'être récupéré par un milieu qui veut faire ce qui lui a fait du mal à Paris, qui veut institutionnaliser l'avant-garde, la mettre dans des carcans, dans des normes, dans des canaux qui mettront un frein finalement à l'innovation. Et donc d'une certaine manière, on peut se dire que Duchamp, c'était encore quelque chose auquel il pouvait être allergique, d'où sa réaction, on peut comprendre. L'idée de se dire, bon, on va voir, hein. Ils disent qu'ils sont les indépendants, ils disent qu'ils sont ouverts à l'innovation, et mettons-leur le truc le plus potache possible, le plus inacceptable possible. On va leur mettre un urinoir, on va le signer R.Mutt, R.Mutt, M-U-T. Alors ce qui est très intéressant, c'est ensuite comment Duchamp et Arensberg et leurs amis ont monté en épingle cette histoire de l'urinoir. Ils ont profité de l'événement pour mettre vraiment les milieux modernes, les milieux avant-gardistes en face de leurs contradictions, leur faire voir qu'ils étaient en fait tout simplement contre ceux qu'ils prétendaient remettre en question. Stieglitz va quand même prendre position pour l'urinoir et donc accepter de photographier justement cet urinoir. Et on connaît très bien cette photographie qui a été publiée ensuite dans une revue d'Arensberg, Duchamp et compagnie, en montrant ce qu'on appelait la Madone de la salle de bain, the Madone of the Bathroom. Autres éléments aussi, Ermut, quand on est germaniste ou germanophone, on sait que c'est Ehre und Mut. C'était Ehre und Mut, c'était l'équivalent de Blut und Boden, c'est-à-dire l'honneur, Mut, courage. C'était une des devises de cette espèce d'esprit de culture pan-germaniste, raciste, militariste, etc., sur laquelle finalement Duchamp est en train de pisser. Et ça, vraiment, c'est fascinant dans cet urinoir, qu'il y a toujours des choses à dire. Donc, l'urinoir, c'est quoi? C'est à la fois une manière pour Duchamp de mettre l'avant-garde des États-Unis en face d'elle-même, de régler ses propres comptes avec l'art, il en avait à régler, et puis aussi de prendre position dans la lutte, dans la bataille culturelle et nationale et politique pour ou contre l'entrée en guerre des États-Unis avec les alliés qui en avaient bien besoin.
Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, ce ready-made de Duchamp, cette fontaine, est pacifiste? Est-ce qu'on peut la relier à ces questions-là?
Il me semble délicat d'essayer de tendre un rapport trop direct entre Fontaine et le contexte de la guerre, en suggérant une interprétation, anti-militariste. Oui, vous m'offrez une hypothèse, mais qui peut être davantage de l'ordre de l'improvisation que de la certitude. C'est que à quoi sert un urinoir? À pisser dedans. Ce n'est pas un geste dans lequel une sorte d'héroïsme viril se manifeste de manière particulièrement remarquable. Donc si vous voulez, en un sens, Fontaine, qui est d'ailleurs couché sur son mauvais côté, c'est une sorte d'anti-érection. C'est une hypothèse, on peut peut-être imaginer de faire un livre là-dessus. Il va falloir quand même pas mal travailler pour amasser des éléments de preuves complémentaires sur cette idée qui a au moins le mérite d'être extrêmement spirituelle.
Donc en 1917, Philippe d'Agen, qui entend parler de Fontaine?
Évidemment, son auteur, Henri-Pierre Rocher, Picabia, les jeunes américaines qui sont volontiers prises d'Henri-Pierre Rocher et de Marcel Duchamp, les amis collectionneurs, donc le couple Arensberg, Catherine Dreyer, Manet, bien sûr, Stieglitz. Et donc, on peut considérer que quelques amis du cercle de Stieglitz en ont entendu parler. Ça paraît, dit aujourd'hui, prestigieux. En 1917, c'est quand même globalement un groupe de copains inconnus du grand public.
Et en France?
En France, alors là, personne. De toute façon, en 1917, en France, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actualité artistique new-yorkaise n'est pas une question centrale. Et s'il y a des manifestations artistiques en France, elles sont soit l'ordre du deuil national, puisque 1917, c'est la mort de Rodin, donc obsèques nationaux devant le Panthéon. C'est la mort de Degas.
Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Oh, der Bebe, der Bebe, fünfe, der Bebe, fünfe, 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 fünfe.
Est-ce qu'on peut tirer des traits comme ça, des liens, des fils entre cet urinoir, l'esprit de Dada à Zurich, Duchamp?
On peut tirer deux fils. On peut tirer un fil, on va dire, collectif, structurel, et un fil individuel lié aux biographies, aux trajectoires des personnages. Le fil structurel, c'est vraiment cette crise générale de la modernité qui est le résultat des luttes, de l'émulation, des problèmes nationalistes, tout ça, tout ce que Duchamp a vécu, mais qu'il n'est pas le seul à avoir vécu, et que l'on voit aussi dans le milieu de la littérature, qui fait qu'il y a un besoin d'aller plus loin, mais de sortir de tout ça, parce que l'innovation n'est plus là, où la liberté est vraiment mise à mal. Et le côté donc individuel, c'est vraiment la trajectoire de Francis Picabia. Francis Picabia, l'artiste voyageur, le rentier, très important, quand on est rentier, on est libre. On n'a pas besoin du marché, donc on peut innover très facilement. Donc rentier qui voyage, qui va justement faire partie de la grande foire new-yorkaise, qui va ensuite partir de New York. Donc il a participé hein, à l'aventure du salon de l'Independent Society, à l'aventure de l'urinoir, à l'aventure des revues avant-gardistes new-yorkaises. Et ensuite il repart, et c'est quelqu'un qui déprime pas mal et qui est très alcoolique. Et étant alcoolique, étant sous dopant permanent, il a besoin de faire une cure de désintoxication. Et pour sa cure, il part en Suisse. Et en Suisse, par le biais des renvois de courrier, il reçoit une lettre que lui envoie Tristan Tzara, l'animateur de Dada
à Zurich, qui lui-même avait voulu contacter un petit peu tout le monde, quels que soient les bords. Et donc la lettre de Zara arrive chez Picabia, qui, sachant qu'il n'est pas loin, finit par dire « mais rencontrons-nous ». Et là, la rencontre est formidable. Le vieux, entre guillemets, le vieux renard, le vieux singe de l'avant-garde parisienne rencontre le jeune premier, on va dire, du chant dadaïste zurichois, qui lui-même est presque à bout de souffle. Et tout ça va faire quelque chose d'explosif, qui va totalement renouveler Dada et qui va conduire à l'année 1918 et 1919, en plus ensuite l'exportation à Dada à Paris de l'aventure dadaïste.
En arrivant à New York, il a retrouvé toute la bande des amis de 1913 et il a retrouvé Marcel Duchamp. Et Picabia s'est retrouvé dans un milieu très passionnant.
Gabriel Buffet Picabia.
Mais en même temps, l'angoisse du monde à cause de la guerre. L'Amérique savait qu'ils allaient entrer en guerre prochainement. Et il est certain qu'il y avait une inquiétude générale qui amenait dans la ville, à New York, enfin, je n'ai vu que New York à cette époque, une fermentation tant pour les idées révolutionnaires contre la guerre que pour la guerre. Et c'était un climat extraordinaire. Et puis, il y a eu ce côté humoristique qui s'est développé. Pour réagir contre cette angoisse, il y a une histoire qui est très connue, c'est une histoire de Cravant. Eh bien, sous l'influence de Picabia et de Marcel Duchamp, ce Cravant a accepté de faire une conférence. Il est arrivé à sa conférence, enfin, c'était la salle était mondée de belles dames, tout ce qu'il y avait de plus élégant. Et il est arrivé ivre. Il a commencé à se déshabiller, enlever sa veste, on a cru qu'il allait enlever son pantalon. Il a crié un juron affreux pour les Américains. Et ça devenait tellement grave que la police est intervenue. On l'a immédiatement emmené, menotté aux mains. Mais alors Picabia a été ravi, enchanté. Quand c'est Marcel Duchamp, j'ai entendu qu'il disait « Quelle belle conférence, quelle belle conférence !» Et ça, c'est tout à fait l'esprit Dada. Ce qu'il y a d'extraordinaire, et dont on s'étonne, j'en suis toujours étonné, c'est qu'à Zurich, il se passait la même chose, sans qu'il y ait aucun contact entre New York et Zurich. Avec des conférences à l'absurde, des représentations sans queue ni tête. Et la trame était quand même une trame révolutionnaire.
Donc Adrian Knotts, là on a quitté donc, le lieu où a été prononcé, où a eu lieu la première soirée Dada.
Oui.
Et là donc, on a avancé un peu encore dans Zurich. Là on est sur une grande avenue, la Bahnhofstrasse, donc la rue de la gare. Ouais. Il y a des tramways qui passent devant nous, on est entouré de banques, l'UBS, le Crédit Suisse, et il s'est passé quelque chose par ici. Je vois un chocolatier en face de nous, Sprungli.
Oui, c'est la confiserie Sprungli, et ça a déjà existé dans le temps des dadaïstes. Et alors, les dadaïstes, c'était une galerie qui s'appelle Corail, et là, ils ont fait une exposition, je crois qu'elle s'appelle Expo Dada, et c'est un mélange d'artistes comme Picasso, par exemple, et de Quirico, et des autres, et des arts de l'Afrique, des sculptures africaines et tout ça. Et après ça, les dadaïstes ont loué l'endroit de Han Corail et ils ont fait deux ou trois autres expositions. Et là, je crois que la galerie Dada est très importante. J'ai déjà parlé pour le nom Dada et la promotion de Dada et la formation de Dada, mais aussi pour les soirées qu'ils ont organisées ici. Parce que dans ces soirées ici, il y a un grand mélange avec les danseuses de l'école de Rudolf von Laban. Et c'était ici où les danseuses de l'école de Laban qui ont dansé avec des poèmes bruitistes, par exemple. Et naturellement, on a eu des problèmes avec les voisins parce qu'on était trop loud. Trop bruyant. Et aussi avec M. Sprungli parce qu'on n'a pas payé.
Le loyer.
Oui. Et comme ça, la galerie Dada est fermée, je crois, en mai.
Donc cette galerie s'est tenue, cette galerie Dada a existé en 1917 à Zurich pendant 3 mois. Et c'était aussi pour Dada un moyen de devenir plus sérieux, d'être plus connu, de se mettre mieux en scène, d'être en lien avec d'autres mouvements artistiques.
Oui, mais peut-être on ne peut pas parler si stratégiquement de ça, non? C'était on peut dire que c'était seulement l'idée de faire de l'argent, non? On a fait des cartes visites, les magazines. Et je crois que les dadaïstes ne sont pas des économistes. Non? Et ils ont eu des disputes entre Hugo Ball et Zara.
Le cabaret Voltaire, c'est très court. C'est février-juillet 1916. Et Hugo Ball se met un petit peu en retrait dès l'été 1916. Parce que pour lui, Dada, c'est un mot, mais ce n'est pas un mouvement. En fait, il n'a pas envie que ce mouvement devienne une sorte de mot qui se décline à toutes les sauces, qui se médiatise quelque part à travers l'organisation d'expositions et de revues, qui perd finalement aussi de sa spontanéité. C'est Tristan Tzara qui prend le relais, et Tristan Tzara ne va pas du tout dans le sens d'une recherche spirituelle, et Tristan Tzara va plutôt faire de Dada ce mouvement nihiliste qui critique la société, la marche du monde, qui parle de dégoût dadaïste, hein, c'est très très fort, et là on a vraiment une bascule. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de ce foyer initial qu'est Zurich, Dada va essaimer un petit peu dans toute l'Europe, et donc on a évidemment Tristan Tzara qui revient à Paris, on a donc le foyer parisien, où on retrouve notamment des écrivains aussi, tels que Philippe Soupeau, Breton. Et voilà, Dada Paris, c'est un petit peu, on le sait bien, l'origine du surréalisme. Alors que ce qui est intéressant, c'est qu'ailleurs, on a un dadaïsme qui va plutôt aller vers le constructivisme, qui est une filiation moins connue en France, et qui montre bien qu'il y avait dans Dada cette dimension aussi positive.
Sell-out de Dada.
Oui, comme c'est une livres. Marque. Il y a des tote bags Dada.
Oui, voilà. C'est une explication de Dada. C'est aussi Kurt Schwitters qui dit qu'on peut prononcer, on peut dire Dada, on peut dire Dada, ou on peut dire Dada.
Qu'est-ce qu'il y a à vendre comme objet Dada?
On a naturellement le savon Dada. Parce qu'il y avait une savon qui s'appelle Dada. On a un Dada, non?
Un petit cheval de bois.
Oui.
Et il sent bon, le savon Dada?
Oui, je crois.
Ah, oh, c'est pas mal.
On dit que c'est un savon du lait de Lily.
Oh, le lait de Lila.
Oui, et on a le Dada manuel. Et comme ça, on peut expliquer Dada très simplement avec les 5 doigts de la main. Et naturellement, on peut acheter des t-shirts et des masques et des affiches.
Et ça, celui-là, là-bas?
Oui, ça, c'est l'affiche du firmament Dada.
Donc la constellation Dada?
Oui, avec tous les endroits, Zurich, Genève, Montréal, Paris et tout ça.
Bruxelles, Amsterdam, ouais. New York, Mexico, Madrid, Rome, Zagreb, Weimar, le Tyrol.
Et aussi en Israël, non? Et Tokyo.
Vive Dada!
Merci à Adrian Notz, Isabelle Evig, Georges Sebag, Béatrice Joyeux-Prunel, Michel Gauthier, Philippe Dagen. Merci aussi au Cabaret Voltaire et au Centre Georges Pompidou, Archivina, Clarimonac, Aude Vassan. Merci aussi à Marion Rivet, prise de son, Gilles Gallinaro, Michel Gassic et Raymond Albouy. Mixage, Olivier Dupré, un documentaire de Perrine Carvran réalisé par Ghislaine David, 1917, Dada, Duchamp, Breton, le grand dégoût de l'art.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez retourner à Zurich, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster à New York ou nous réécouter à Beaubourg, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire, et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, dernier épisode, les artistes, soldats de la Révolution. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.